Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Soudan, Sénégal, Gambie, Tchad, Mali, Niger, Guinée ou encore Burkina Faso, pluie torrentielle et inondations parfois meurtrières se sont multipliées ces dernières semaines, notamment en Afrique. Alors pourquoi ces inondations ont-elles des conséquences de plus en plus dramatiques? Vos dirigeants ont-ils saisi l'ampleur du phénomène? Quelles sont les mesures à prendre d'urgence pour mieux affronter les aléas climatiques? On lance le débat. Lasbadia, bonjour.
Bonjour Madame Chantal.
Vous habitez Grand Yoff dans la banlieue de Dakar. Dakar dont les habitants ont vécu des scènes d'apocalypse le 5 août quand des pluies torrentielles se sont abattues sur la capitale provoquant de gigantesques inondations. Un homme a péri noyé sur la corniche ouest de la ville. 126 mm d'eau sont tombés en une journée sur Dakar. Est-ce que Lasbadiane, vous aviez déjà vu pareille scène, pareil chaos et pareil dégâts à Dakar?
Mais merci à vous et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI. Donc c'est vrai que le 5 août, nous sommes victimes des eaux pluviales qui ont fait de nombreux désagréments au niveau de Grand Yoff et au niveau de la banlieue de Dakar, et généralement à l'intérieur du pays. Mais je pense que c'est des choses naturelles qui ne laissent aucun pays. Nous avons vu le Nigeria, la Gambie et beaucoup d'autres pays africains et même des pays européens qui ont eu à subir des genres d'eau pluviale. Maintenant, il faut savoir que le gouvernement en place avait déjà anticipé en mettant en place un plan décennal de lutte contre les inondations avec un budget de plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire 766 milliards. Donc, il y a des nouvelles infrastructures qui ont été construites. Il y a eu l'entretien de nouveaux circuits. Mais malheureusement, il y a aussi l'incivisme des populations qui ne tiennent pas en compte de la vétusté du réseau qui déversent des ordures ménagères dans les canaux et dans les circuits. Et ça participe malheureusement à la dégradation de ces infrastructures.
Donc il y a un problème de prise de conscience, non seulement du dérèglement climatique, mais des problèmes tout simplement que les inondations, que les pluies torrentielles engendrent dans la vie des gens sur le terrain et qui peuvent causer du paludisme, des maladies des poumons, etc. etc. Les gens n'ont pas réellement pris conscience du danger.
Je pense que le gouvernement doit maximiser encore ses efforts dans la sensibilisation au niveau des populations. Parce que le président de la République a eu quand même l'idée ingénieuse de mettre en place un ministère chargé de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, en mettant en place une campagne nationale de propreté pour inciter les populations sénégalaises à s'approprier ce concept, à prendre la propriété comme un grand slogan. Parce qu'avec les changements climatiques, donc nous ne sommes pas à l'abri. C'est pourquoi les populations, de concert avec les autorités, devraient prendre en charge cette problématique-là et aussi ne pas accepter que des ordures ménagères, que des gravats, des bétons soient déversés dans des circuits dans lesquels l'État a mis des centaines et des centaines de milliards. Malheureusement aussi au niveau de nos gouvernants, donc avec le programme national mis en place par le président de la République, nous avons constaté des insuffisances au niveau du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, parce qu'il y a des désencombrements parcellaires qui ont été faits, alors qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation. Je pense que c'est un problème assez récurrent qu'il faut dialoguer de permanence avec les populations pour qu'elles puissent savoir l'impact qu'il y a dans le dérèglement climatique et aussi la responsabilité qui est la leur, de prendre en charge cette problématique-là.
Merci Lasbadiane. On va voir si la problématique, justement, est la même au Burkina Faso. François Moïse, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous habitez au Ouagadougou. Des pluies diluviennes sont tombées le 3 août sur la capitale de votre pays. Est-ce que ce problème des pluies est nouveau au Burkina Faso?
Ben, je pourrais pas dire que c'est nouveau, mais dans l'ampleur que ça prend actuellement, c'est quand même un peu différent. Moi, je suis un homme de 52 ans. Dès mon enfance, à Bourou-du-Lasso, à Ouara, il arrivait que, en cas de grande pluie, l'eau qui coulait dans les canigots puisse emporter des enfants ou des femmes qui tentaient de jeter les ordures ménagères et dans l'eau pour que l'eau l'emporte. Mais aujourd'hui, moi, je situerai le problème à deux niveaux pour le cas du Burkina Faso. Je pense qu'il y a, au niveau des autorités, il y a un vrai problème. Un vrai problème, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on trouve des nouveaux lotissements, hein, des nouveaux quartiers qui n'ont aucun caniveau. C'est impensable, ça. C'est qu'on puisse permettre que des nouveaux quartiers s'installent. Et dans le processus de viabilisation de ces nouveaux quartiers, qu'on ne prévoit même pas des caniveaux. Ça, c'est au niveau de l'État. Après, il y a les communes aussi, où, par exemple, je prends le cas de la deuxième ville de Bobo, du Burkina, où je suis aussi, Bobo Dioulasso, où les autorités communaux ont sensibilisé la population à vider les caniveaux. Et les véhicules de la voirie devaient passer les chercher. Eh bien, les populations sont sorties, ils ont vidé ces caniveaux-là, c'est resté 2 ans. Et ces mêmes trucs qu'on a vidés des caniveaux sont retournés dans les caniveaux aussi.
Parce que après, les services de la voirie ne sont pas passés ramasser les ordures dégagées par la population.
En tout cas, pas dans tous les quartiers où ça avait été fait. Après, là où les situations se ressemblent, c'est dans l'incivisme des populations. Et pour le cas du Burkina, il y a déjà ces ordures ménagères qu'on jette dans les caniveaux en temps de pluie et hors saison de pluie. Mais il y a un truc qui se passe actuellement au Burkina, c'est-à-dire qu'il y a des boutiques qui s'installent comme ça dans la rue. Et ces boutiques, en s'installant le plus souvent pour ne pas occuper trop la voie publique, ils s'installent sur les caniveaux. Et il y en a qui ne se font même pas de soucis à remplir le caniveau pour créer un remblai sur lequel ils posent leur boutique.
Donc ça veut dire qu'il faudrait éviter les installations comme ça de fortune sur les trottoirs et par exemple créer des marchés pour rassembler ces petits commerçants ?
Ces marchés existent déjà, c'est juste des commerçants, un, qui ne veulent pas payer ces places dans ces marchés-là et qui veulent être dans une proximité avec les populations, donc ils s'installent dans les quartiers. Sinon, ces petits marchés existent un peu partout au Burkina, il y a des boutiques qui sont créées pour justement ça. Mais les gens voulant être à la proximité des clients potentiels, les gens s'installent comme ça.
Comme ils peuvent. J'ai une dernière question, oui. François Moïse. Oui. Est-ce qu'il existe des systèmes de récupération de l'eau de pluie dont on pourrait se servir en saison sèche pour arroser, par exemple ?
Exactement. Moi, j'ai fait ce constat que pendant la saison sèche, tu quittes Ouagadougou jusqu'à la sortie du côté de la Côte d'Ivoire et du Mali. Tout est vert au Burkina. Donc, ce n'est pas un problème de sol, puisque nos sols sont fertiles pendant la saison des pluies. C'est juste un système de conservation d'eau. Et moi, j'ai vu un système au Brésil, dans un endroit complètement sec, où il ne pleut qu'une fois par an. C'est-à-dire que c'est un système où tous les 10 km, il y a des grands fûts d'à peu près 3 à 10 000 mètres carrés qui sont creusés. Et donc, l'eau est recueillie dans ces fûts-là, et vous imaginez, chaque 5 km, l'eau est récupérée, et ces endroits arides-là arrivent à vivre avec ces eaux recueillies la moitié de l'année.
Donc, il faudrait s'inspirer.
Au Burkina, on ne pense pas à ça.
Voilà, il faudrait s'inspirer de cette expérience brésilienne. Merci beaucoup, François Moïse. On part pour Bamako, retrouver Mamadou. Bonjour, Mamadou.
Bonjour.
Vous avez raconté à notre équipe hors antenne que vendredi dernier, il pleuvait des cordes à Bamako, mais que vous ne vous en étiez quasiment pas rendu compte. Pourquoi ?
Ben oui, bonjour à tous vos auditeurs. À côté du tableau noir, là, quand même, il faudrait relever quelques expériences dans nos pays, parce qu'il y a quand même des quartiers qui sont très bien viabilisés. Et moi, j'ai la chance d'habiter dans un de ces quartiers à Bamako. Où à partir du début des années 2000, il y a eu un programme de logements sociaux qui a été lancé et qui a permis au Mali de faire des quartiers, on ne va pas dire huppés, mais très bien viabilisés. Et du coup, dans ces quartiers, pour ceux qui habitent Bamako, c'est la Tétébougou, quand il pleut, on ne se rend pratiquement pas compte parce qu'il y a tout un système d'évacuation, de canaux primaires, de canaux secondaires, et le tout relié à des collecteurs qui permettent de drainer les eaux de ruissellement, les eaux de pluie. Et quand il pleut, on ne se rend pratiquement pas compte.
Donc c'est un exemple qu'il faudrait multiplier à l'échelle de tout le pays.
Ça veut dire d'abord, dans un premier temps, que c'est possible de faire des villes ou avec un moindre risque d'inondation. Ça veut dire que c'est possible, tout est une question de vision. Aujourd'hui, il faudrait se baser sur ces exemples pour d'abord réaménager les anciens quartiers, là où il y a eu les inondations, et ensuite que dorénavant, tous les lotissements qui vont se faire puissent se faire avec un niveau de viabilisation minimum requis, parce qu'on ne peut pas venir installer des gens comme ça sans canalisation, sans route. Évidemment, quand il va y avoir de grosses pluies avec les changements climatiques que nous connaissons, forcément, il va y avoir des inondations. Donc, il vaut mieux être là-dessus.
On a bien compris. Merci beaucoup, Mamadou. On va aller voir comment ça se passe en Mauritanie. Aminetou, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes en ligne de Nouakchott, vous habitez le quartier Cité-Plage et vous êtes submergé par l'eau actuellement?
Oui, tout à fait. Donc, comme vient de leur dire les personnes qui ont parlé tout à l'heure, c'est la même situation à peu près, puisque Nouakchott, à la base, c'est une ville à risque d'inondation. Étant donné qu'une grande partie de la ville s'est développée dans une zone de dépression. Donc, lorsque les gens construisent dans ces zones, il faut forcément s'attendre à des inondations. Et aussi, il faut savoir que la capitale Nouakchott, elle a été construite en 1950 et initialement, elle était conçue pour accueillir environ 8000 personnes dans les années 70. Et maintenant, 7 décennies après, Nouakchott est devenue une agglomération tentaculaire avec plus d'un million d'habitants. Donc, dans ces zones inondables, il y a des quartiers qui se sont formés, comme Sepra, la commune où se trouve le quartier où j'habite, la Cité-Plage. Il y a une autre commune, Elmina, le Khazar, Darnaïm, et une grande partie des zones résidentielles de Tavrazena qui se trouvent dans ces zones inondables.
Et dans ces zones inondables, les autorités n'ont pas mis en place de système d'assainissement à la hauteur des populations qui y habitent désormais?
Non, il n'y en a pas assez parce que, vous savez, avec l'exode rural, comme je viens de le dire, les gens se sont déplacés vers la ville de Nouakchott, surtout après les années de sécheresse dans les années 70. Beaucoup de gens ont fui les zones rurales pour venir à Nouakchott. Et donc, les gens se sont installés de façon anarchique. Et donc, il n'y avait pas un plan de viabilisation de la ville de Nouakchott, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de réseaux d'assainissement ou de canalisation des eaux. Et aussi, donc, quand on l'accumule avec les effets du changement climatique qui font que il y a des pluies, des événements extrêmes comme la sécheresse, des vagues de chaleur. Parfois, on peut rester 2 ans, 3 ans sans pluie et tout d'un coup, comme ce qui est arrivé cette année, la pluie est venue. Alors que Nouakchott, il y a 2 ans, il n'y avait pas assez de pluie. Donc, ces pluies de cette année confirment les craintes de risques graves de catastrophes naturelles dans les années à venir.
Et alors, Aminetou, vous avez une association de quartier qui se mobilise. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'action concrète que vous souhaiteriez voir prendre par l'ensemble de vos voisins au sein de cette association?
Tout à fait, il y a une association de quartier là où j'habite. Comme je le disais, hors antenne, on pensait à faire venir des camions de citernes pour récupérer l'eau qui se trouve dans les rues, le surplus d'eau qui se trouve dans les rues et quitte même à cotiser entre nous pour pouvoir payer ce service des camions à citernes. Oui.
Merci beaucoup Aminetou. On part pour Banjul, capitale de la Gambie, victime début août d'inondations meurtrières. 11 morts, plus de 5000 personnes déplacées. Lamine, bonjour.
Bonjour, Champal.
Vous habitez sur une colline, donc vous n'avez pas été touché personnellement par la catastrophe, contrairement à certains de vos voisins. Racontez-nous.
Effectivement, moi, là où j'habite, vraiment, je n'ai pas eu d'inquiétude avec la pluie, parce que non seulement je suis sur une colline où je ne ressens pas l'excès d'eau, Mais ceux qui occupent les bas-fonds où il y a des constructions anarchiques qui se sont élevées, eux, ils ont vraiment subi là où les eaux ont même atteint les lits. Et pendant des jours, ils sont restés chez les voisins pour ne raconter que cela.
Vous parlez de bas-fonds, mais comment est le sol ? Le sol est sablonneux, c'est pour ça qu'il s'enfonce dès que de fortes précipitations tombent ?
Effectivement, dès qu'il y a de fortes précipitations, le sol étant donc dominé par le sable et un peu d'argile, il est léger, donc les poids lourds, donc ce qui fait causer les dégâts des bâtiments qui s'écroulent, des murs qui se fissurent et beaucoup d'autres choses.
Est-ce qu'il y a aussi un problème avec le matériau utilisé pour construire les habitations ?
Bien sûr, vous savez, beaucoup de personnes sont ici, ils n'ont pas les possibilités de construire des maisons en dur. Ils font recours à la terre. Ils font des briques en terre qu'ils construisent. Donc, c'est ce que nous appelons ici des maisons en banco. Et ces maisons en banco, là, vous savez, la terre étant beaucoup dominée par le sable, dès qu'elle s'est mouillée, ça s'écroule. C'est ça.
Alors, autre pays frappé par de fortes pluies meurtrières, le Niger, 27 morts et plus de 57 000 sinistrés selon l'ONU, avec ces pluies qui sont tombées depuis début juin. Djibril, bonjour, vous nous appelez de Zinder.
Oui, bonjour.
Comment vous expliquez,
oui, je vous écoute.
Oui, comment vous expliquez, Djibril, ce bilan meurtrier de ces pluies qui tombent sur votre pays depuis juin ?
Merci. Bon, effectivement, par rapport à ces bilans meurtriers, je peux dire que bon, vraiment, c'est lié à un problème de canalisation d'eau. On a vraiment des villes, la ville qui s'urbanise est vraiment en milieu urbain, il n'y a pas de canalisation d'eau. Tant qu'il y a des fortes pluies, l'eau n'arrive pas à couler comme il se doit, donc il se crée un chemin dans les maisons et très malheureusement, les maisons s'effondrent avec des pertes humaines.
Est-ce que l'État a pris des mesures ou est-ce qu'il est un peu débordé par la situation ?
Bon, pour le moment, l'État n'a pas pris tellement d'initiatives vraiment concrètes parce que c'est juste un constat et ils arrivent seulement à venir avec le ministère de la gestion des catastrophes à faire le constat et vraiment à restreindre les sinistrés pour le moment. Il n'y a pas vraiment de mesures concrètes pour le moment jusqu'à présent.
Merci beaucoup, Djibril, d'avoir participé à ce débat. Un message envoyé sur WhatsApp par David Thieu à Lomé. Des sites ont été creusés au Togo pour retenir l'eau afin de permettre l'écoulement normal vers la mer. La population est aussi invitée à ne pas ériger de construction dans les bas-fonds. Et l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique veille à ce que les égouts ne soient pas bouchés. Cela a permis au Togo de réduire significativement les cas d'inondation. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve demain. Les derniers soldats français de Barkhane ont quitté lundi le Mali après 9 ans de guerre contre le terrorisme. Que pensez-vous de ce départ ? Que va-t-il maintenant se passer au Mali ? Votre avis nous intéresse. On vous attend au 33 9 693 693 70 ou sur notre page Facebook. Dans quelques secondes, le retour de l'info sur RFI. Restez avec nous.
Atlantic Traveler, la carte prépayée, rechargeable jusqu'à 10 millions de francs CFA par mois pour effectuer vos achats en ligne et dans les commerces, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
RFI, la sélection du mois.
Marissa Monté, Seoul George et Carlinhos Brown.
Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Davido and DaBaby.
Working with the man, it's a lot of things you gotta understand. It's them beside me.